Bonjour et bienvenue à Regard croisé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Oui. Alors aujourd'hui, eh bien, belle émission encore.
Oui.
On va recevoir Laurent Brault, qui est directeur général de la Fondation Émergence. Fondation Émergence qui souligne ses 20 ans d'existence, 20 années d'efforts consacrés à la défense des droits et à l'inclusion des personnes LGBTQ+. Et puis on aura également dans l'émission un peu plus tard Pierre-François Poulin qui est gouverneur, qui est organisation d'un encan, puisqu'il y a un encan d'art qui se fait régulièrement toutes les années pour un encan bénéfice annuel d'œuvres d'art de la Fondation Émergence. Donc on en reparle tout à l'heure.
Les détails un peu plus tard.
Et après
en deuxième partie d'émission, on va recevoir Walter Legrand. Nul autre que le grand Walter Boudreau, qui est directeur artistique de la 10e édition du festival Montréal Nouvelle Musique. Voilà, ça commence bientôt, là, le 18 février.
D'accord. Voilà. Ah, ben avec grand plaisir.
En web diffusion, bien sûr. On va pas en salle.
Évidemment, on se posait même pas la question.
Voilà, on va pas oublier la disparition du grand...
Raymond Lévesque. Ouais, Raymond Lévesque, qui vient de nous quitter. On va partir en musique avec Yves Lambert, qui nous chante La Famille.
La Famille.
Mon oncle Albert, c'est un millionnaire. Il a fait son argent avec la guerre. Il y a eu un contrat du gouvernement pour payer je ne sais quoi en ciment. Alors comme il était payé autant, comme bien entendu il a pris son temps, et même sa vie a pris tellement de temps qu'il vit de ses rentes depuis ce temps. Comme de raison, c'est le dieu de la famille. Quand il vient pour faire des déclamations, il faut parler comme des petites filles afin de lui faire une bonne impression. Dans nos petites têtes d'enfants, on se dit en tout cas si l'argent fait pas le bonheur tout comme les galons, au moins on est perçu dans les salons. Ma tante Ida, la sœur de mon père, est reconnue pour être une vraie commère. Et un jour, maman l'a dit à papa, papa lui n'a pas du tout aimé ça. C'est pas que sa sœur, il l'aimait tellement, mais entre frères et sœurs, on se défend. Ce n'est pas toujours comme ça au foyer, mais tout change lorsque l'on est marié. En tous les cas, là, mon père en colère, et après gueuler sur ma tante Claire du côté de maman, qui d'après lui avait des dans nos petits cœurs de 10 ans, on savait pas ce que c'était des amants. Mais quand même, quand elle vient nous visiter, pour l'embrasser, on s'est bouché le nez. Mon oncle Arthur, c'est un gros taureau. Tous les hivers, il part pour l'Ontario. Il s'en va travailler dans les chantiers, faire la cuisine car il est cuisinier. Quand il revient avec le printemps, il a les poches bien bourrées d'argent. Il prend un coup et avec une bidoune, il vient chercher mon père pour une balloune. Ma mère dit qu'on reste à la maison, mais il s'en va quand même comme de raison. Quand il revient avec un coup dans le corps, nous autres les jeunes, il faut rester dehors. Les voisins appellent Radio Police avant qu'ils finissent par s'assommer. Le lendemain matin, l'institutrice nous parle de la douceur du foyer. Pas parler katinkatikitang, 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 pas parler katinkatikitang.
Alors bien sûr, la chanson d'Yves Lambert, La Famille, était tirée d'un album qui s'appelle Chapeau, Monsieur Lévesque. Et là maintenant, eh bien, on va discuter avec Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent.
Ça fait plaisir de t'entendre. Bienvenue dans l'émission. Donc, tu es là pour souligner les 20 ans d'émergence et puis pour qu'on parle tout à l'heure aussi de l'encan d'art qui se fait régulièrement depuis...
Oui, exactement. Là, la Fondation... fête son 20e anniversaire, festivité qu'on a dû reporter étant donné les circonstances, oui. Vous vous en doutez bien.
Bien sûr. On peut pas dire que tu étais là au tout début, tu es trop jeune pour ça, mais quand même, ça fait un petit moment que tu es président de cette fondation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, parle-nous un peu de la Fondation Émergence. Qu'est-ce que c'est?
Oui, donc la Fondation Émergence, c'est un organisme de défense des droits pour les personnes LGBTQ+. Ça a été fondé, donc, il y a 20 ans par le défunt Laurent McCutcheon, qui était à l'époque président de Gay Écoute, la fameuse ligne d'écoute qui est aujourd'hui Interligne. Et dans le fond, c'est à partir de ce qu'il entendait sur la ligne d'écoute d'aide est venue l'idée de créer une fondation qui viserait à sensibiliser le grand public pour changer les mentalités, pour plus d'inclusion des personnes LGBTQ+. Donc, c'est un petit peu la motivation derrière qui a amené à créer la Fondation Émergence. Donc, la Fondation, concrètement, là, ce qu'elle fait pour changer les mentalités, c'est qu'elle produit du matériel de sensibilisation, des outils d'information sur les réalités LGBTQ+. On offre également des formations, que ce soit dans les résidences pour aînés, que ce soit dans les milieux de travail. Et plus généralement, on fait la promotion des droits LGBTQ+, que ce soit par des prises de position politique, en participant à des projets de loi, en écrivant des mémoires, en allant sur toutes les tables rondes, les comités, oui, pour parler de nos réalités. Donc, c'est nos trois grandes actions qui se formalise dans certains programmes, notamment notre programme principal qui est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, donc qui est le 17 mai, qui a été créé pour la première fois au monde par la Fondation Émergence en 2003. Oui, on en est très fiers parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui se retrouve qui est soulignée dans plus d'une trentaine de pays.
Je me souviens, moi, d'une fois où il y avait comme bandeau trois visages de jeunes gens qui racontaient chacun une histoire et qui venaient d'endroits fort différents. Et pourtant, l'histoire se répétait quand même. Dans le rejet, je parle.
Oui. Exactement. C'est notre campagne en 2018 parce que dans le cadre du 17 mai, on déploie une campagne pan-québécoise, pan-canadienne et aussi on traduit notre matériel en 20 langues pour vraiment donner un caractère international à nos campagnes. Dans le cas des trois jeunes, c'était trois jeunes qui avaient fui leur pays à cause de l'homophobie et de la transphobie. Donc, il y avait Rami de Tunisie, il y avait Justin de Russie, puis Mona du Burundi. Et on rappelait dans le cadre de cette campagne-là qu'encore aujourd'hui, 70 États criminalisent l'homosexualité et 8 États font la peine de mort, là. Donc, oui, il y a encore pas mal de chemin à faire, surtout sur la scène internationale.
Alors, toi, tu es président depuis combien de temps? Directeur général, on va dire.
Oui, Arlette, il va falloir que je te corrige.
Directeur général, excuse-moi, je t'ai monté en promotion trop vite.
Moi, j'ai pas de problème, c'est mon président qui risque d'être déçu.
OK. Alors, donc, je m'en excuse directeur... auprès du président.
Je suis certain que c'est déjà excusé. Je suis directeur général depuis 2017, mais je travaille à la Fondation depuis 2014. Donc, je fêtais, là, une semaine, là, mon 7e anniversaire à la Fondation Émergence.
Bon anniversaire. Et en même temps, j'ai envie de te demander un petit peu plus sérieusement, quelle différence as-tu vue ou aperçue au cours de ces 7 années? Ou bien il n'y a rien qui bouge? Ou bien ça a bougé pas mal? Qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu comme avancée, on peut dire?
Mon Dieu, ça a énormément avancé. Il y a tellement d'enjeux qui me viennent en tête.
Mais donne-nous quelques exemples, juste.
Ben, je dirais que première des choses, il y a énormément de chemin encore à faire, mais je pense que quand même, on va dans la bonne direction pour tout ce qui est les réalités des personnes trans et non-binaires. On en parle plus. Il y a plus de visibilité. Donc ça, je dirais qu'il y a quand même une avancée sur ce point-là. Pour ce qui est des résidences pour aînés, tout ce qui est l'univers des aînés, en fait, là, quand j'ai commencé en 2014 pour le programme Pour que vieillir soit gay de la Fondation, je dois vous dire qu'il y avait personne qui parlait déjà de sexualité chez les aînés, mais encore plus d'homosexualité. Oui. C'était extrêmement tabou. En termes de recherche, on comptait les chercheurs sur les doigts d'une seule main. qui travaillaient sur le sujet au Québec. Et encore là, c'était souvent accessoirement des recherches, à leur recherche principale. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cet enjeu-là, mais encore énormément de fermetures de la part des résidences, malheureusement, là, pour assurer des milieux inclusifs. Mais quand même, on sent que le discours maintenant est possible, la discussion est possible. Il y a des enjeux plus spécifiques, je dirais, pour par exemple la cyber-homophobie, là, tout ce qui est les violences en ligne. Nous accorder le mérite, mais la dernière campagne en 2019 sur la cyber-violence, je pense que ouvert la discussion plus largement, parce que ça touche pas seulement les personnes LGBT, quoique c'est une population plus ciblée par tout ce qui est les violences en ligne, la haine en ligne, mais je pense que ça touche aussi tout le monde. Tout le monde sent que dans les réseaux sociaux, en ce moment, ça ressemble plus à une taverne que qu'un débat démocratique, là, parfois. Donc, il y a du ménage à faire, puis un peu de réglementation. Donc, ça, je pense que quand même, on a avancé pas mal le sujet là-dessus. Donc, je dirais que c'est rapidement comme ça, je pense que c'est trois enjeux qui sont un peu plus mis de l'avant, là.
D'accord. Non, vas-y, fais-le.
Rapidement, Laurent, si je reviens à ce qui se passe dans les centres et les résidences de personnes âgées, est-ce que ça a été facile pour vous d'avoir des contacts, d'approcher les gens, les responsables de ces maisons de résidences de personnes âgées pour pouvoir essayer de mettre en avant comment les actions, de présenter les actions que la Fondation Émergence, voilà.
Alors, avant que tu répondes, tu vas entendre cette question, tu vas nous répondre tout de suite après. Parce qu'on va partir en musique, parce que sinon tu vas commencer une réponse peut-être un petit peu longue. Et après, pour nous parler aussi de l'Encan, on va recevoir avec toi Pierre-François Poulain, qui est gouverneur, qui est bénévole, il faut le dire, et qui s'occupe et qui est organisateur de l'Encan. Donc, il va être avec nous tout de suite après, mais tu répondras d'abord à Fulgence et à sa question. Alors, tu as 3 minutes, le temps d'une chanson. Celle de Pierre Lapointe qui nous chante au 2700 rue des Partances.
Au 2700 rue des Partances, j'ai revu mes tristesses d'avant, brisé mes bonheurs présents. Toujours les mêmes gestes, toujours le même enfant qui détruit tout de peur d'être géant. Et je vais au lendemain en sachant que rien n'ira aussi loin que mes amours d'à présent. Et je sais bien que demain ira peut-être moins bien, mais je n'aurai qu'à penser au passé. Tu sais, celui qu'on s'est bâti à coups de rires et de joie, celui qu'on s'est donné le droit d'habiter. Tu sais, celui qu'on a souvent touché du bout de nos doigts, celui qui a grandi entre toi et moi. J'ai brisé ton grand cœur d'enfant qui rêvait d'être géant. Toujours les mêmes gestes, plus jamais le ma maman. Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Me pardonneras-tu mes maladresses d'enfant? Thank you.
Alors, Laurent Brault, avant de t'écouter, d'écouter ta réponse sur les maisons de retraite, on va souhaiter la bienvenue à Pierre-François Poulin. Bonjour.
Bonjour, Madame Sarah.
Et merci beaucoup d'être, d'être venu pour nous parler d'abord pour l'organisation, puis pour nous parler de l'Encan Bénéfice. Dans un instant, nous sommes avec vous. Laurent, c'est à toi.
Oui, donc excellente question, Monsieur Blas. Franchement, les milieux aînés, c'est très particulier quand on fait de la sensibilisation aux réalités LGBT. Mmh. Je dois dire que la première démarche et le programme a maintenant 11 ans, donc je vous ramène de 10 ans, c'était le fardeau de la preuve. Donc, il fallait prouver qu'il existait des personnes aînées LGBT parce qu'on ne nous croyait pas. On pensait que l'homosexualité, c'était juste une affaire de jeunes. Donc, chez les aînés, ça n'existait pas. C'est une génération qui est beaucoup dans le placard là, pour toutes sortes de raisons que je pourrais vous expliquer dans une autre émission. Mais on avait le fardeau de la preuve, donc on s'est mis à faire une recension des études, à prendre en photo des personnes aînées LGBT pour les montrer, les mettre de l'avant, dire qu'ils existent, montrer leur visage. Ensuite, on a sensibilisé les politiques. Jusqu'à ce point, on partait vraiment de zéro. Et même, non seulement au Québec, au Canada, puis j'ose aujourd'hui dire même dans le monde, là, en termes de sensibilisation des milieux aînés, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Puis, au fur et à mesure de rencontrer des alliés dans les milieux aînés qui nous ont ouvert des portes, on a pu faire de la sensibilisation, faire de la formation. Ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quand même une belle avancée, mais le problème est général dans le milieu aîné, c'est tout est construit d'une manière très médicale, très rapide. Tout est bâti vraiment axé sur les soins, ce qui est évidemment fondamental, mais pour ce qui est du bien-être, de la qualité de vie, on se rend compte depuis la pandémie d'ailleurs là, que ça ne marche pas du tout, qu'il faut absolument changer le cap là-dessus. D'ailleurs, la Fondation appuie là, une coalition pour la dignité des aînés parce qu'on vise vraiment, après la pandémie, à ouvrir le débat sur comment on traite nos aînés. Puis nous, on a l'intention que les 10% des aînés qui sont LGBT soient mis de l'avant et considérés.
Eh bien, tu reviendras pour ça, pour nous en parler, sûrement.
Et ça donc, va me faire
plaisir. Alors, Pierre-François Poulin, donc, comment ça se passe, un Encan Bénéfice? Qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? C'est encore un... Ça a été encore une grosse organisation?
Oui, particulièrement dû à la pandémie. Normalement, ce genre d'encan se produit en présence et là, cette année, c'était pas possible. Alors, donc, il a fallu repenser la formule et il a fallu voir qu'est-ce qui était disponible et comment on pouvait mettre en évidence les œuvres que les artistes ont offertes et comment aller recruter des acheteurs aussi. Alors, c'était tout un défi.
Alors donc, ça va débuter, ça a débuté et c'est jusqu'au mois de mars, jusqu'au 25 mars.
Voilà. Alors les enchères sont déjà en ligne. Les enchères sont ouvertes depuis le 8 février et elles vont se terminer le 25 mars à 20h et ça se termine par une soirée de clôture. Donc la dernière heure des enchères sera en live. Et on pourra, ce sera animé par Joël Legendre. Il y aura Geneviève Leclerc qui est une gagnante de la voix qui va être.
Oui, je me souviens d'elle. Une très belle voix, une voix magnifique.
Magnifique voix, d'une grande, grande générosité aussi. Et donc, elle va interpréter quelques-unes de ses chansons. Il y aura des surprises, il y aura des vidéos et il y aura des prix de présence. Et tout ça, c'est pour animer la dernière heure des enchères. On va essayer de reproduire, donc chacun à la maison, mais on va essayer de reproduire ce qui se passe dans une salle d'enchères avec l'engouement des dernières mises, l'excitation et la frénésie qu'on retrouve qu'on retrouvait du moins dans les encans en présence.
Non, ça ne doit pas être évident de faire ça. Parce qu'il y a quand même une ambiance quand on est en personne qu'il est peut-être difficile d'amener en ligne.
Oui, mais je crois qu'avec l'immense talent de Joël Legendre, qui sera l'animateur, qui a animé des télétons, et c'est un peu la formule de laquelle on s'est inspiré, je crois qu'on est entre très, très bonnes mains.
Et toi, Laurent, comment vois-tu cet encan, cette nouvelle année?
Mais pour nous, l'ANCAN, c'est une source de financement, évidemment. Là, tous les profits iront à la mission de la Fondation pour déployer nos programmes, qui est, comme je le mentionnais tantôt, la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, le programme pour les aînés, pour que vieillir soit gay. On a aussi un nouveau programme depuis un an et demi, pro-allié, qui vise à sensibiliser les milieux de travail, les accompagner. C'est un programme, en fait, qui a énormément de demandes et on a de la misère à vraiment répondre, à donner à l'offre.
Tout. Parce qu'il va falloir ramasser beaucoup d'argent pour tout ce qui existe. Qu'est-ce que c'est Famille Choisie?
Famille Choisie, c'est le quatrième et dernier programme qu'on a. C'est pour, en fait, c'est un programme qui offre des ressources. Que ça soit des ressources de répit, de soutien psychosocial, mais aussi d'information, des outils pour les proches aidants LGBT d'aînés. Donc, c'est assez niché, mais c'est très innovateur comme programme parce que, vous savez, les proches aidants, on a l'habitude de les appeler les aidants naturels. Pourquoi naturels? Parce qu'on les associe à la famille biologique. Donc, un frère qui aide une sœur ou qui aide un parent. Alors que dans la communauté LGBT, étant donné qu'il y a souvent eu du rejet, surtout chez les aînés de la part de leur famille, les aînés LGBT se sont reconstitués une famille qu'on appelle choisie. Donc, à partir même des amis de la communauté. Donc, c'est une population qui est souvent oubliée et qui a souvent pas conscience qu'elle est proche aidante, alors qu'elle peut bénéficier de toutes sortes de services, d'avantages fiscaux. Donc, Famille Choisie vise vraiment à les informer sur leur rôle de proche aidant.
Alors, il y a combien d'œuvres qui seront mises en vente?
Il y a exactement 61 œuvres qui ont été offertes par des collectionneurs et par des artistes, et des artistes de grand renom. Nous avons, entre autres, cette année, Dominique Blain, qu'on retrouve dans les musées du Québec, René Derouin également, Jo Fafard, qui est un artiste international, Michel Goulet, Peter Hoffer, Alfred Pellant, bien sûr, et Armand Vaillancourt. Et surtout, on a une œuvre absolument extraordinaire, qui est une huile de 1934 de Jean-Paul Lemieux, qui a été offerte par un collectionneur qui croit beaucoup à la mission de la Fondation.
Est-ce que l'aide, au cours de toutes ces années d'ANCAN, on est dans les dernières minutes, mais on a le temps d'y répondre, est-ce que l'aide est plus importante au fil des ans, de plus en plus importante?
Je crois que oui, je crois que la mission de la Fondation, les missions de la Fondation sont extrêmement importantes et il faut de l'argent pour les accomplir. Et
bien
je
sûr.
Pense que le but de l'ANCAN est, entre autres, d'aider la Fondation à remplir ses missions et aussi à montrer une certaine indépendance par rapport aux bailleurs de fonds traditionnels.
Est-ce que aussi le fait de le faire sur Internet amène plus de monde encore à venir acheter les œuvres?
Ben, c'est ce qu'on va voir.
Est-ce que c'est le plus? Ou est-ce que ça va être le plus?
Voilà, ben, c'est un peu tôt pour le dire, mais oui. On compte sur des gens qui vont nous aider. Pour ça, il y a Daniel Henkel, qu'on connaît bien.
Oui, bien sûr.
Qui a un énorme réseau avec sa chaîne télé, danielhenkel.tv. Il y a Suzanne Bergeron, qui est également coprésidente d'honneur. Suzanne Bergeron est présidente de Sodexo Canada, qui est une compagnie internationale, qui est présente dans plus de 66 pays. Alors, ces présidentes nous offrent le réseau et elles vont diffuser l'information sur l'ANCAN à travers les réseaux. Et je crois qu'avec ça, et avec le comité d'honneur que nous avons formé, le fait que l'ANCAN se produise en ligne sera connu et ensuite il restera à chacun à évaluer les œuvres et à miser sur ses œuvres.
Ça, c'est le bon côté de la chose quand c'est fait en ligne, d'ailleurs.
Oui.
Eh ben, c'est vrai, M. Blanc.
On vous souhaite à tous les deux le meilleur. Donc, la liste complète des œuvres, c'est sur www.fondationemergence.org/ANCAN. Et mais que ça serve à quelque chose quand même, hein, qu'on soit obligé de le faire de cette manière et que ça vende encore plus d'œuvres. Alors voilà, bonne chance à tous et puis ramasser le plus d'argent possible pour venir en aide comme vous le faites si bien jusqu'à aujourd'hui.
Oui, les Samaritains qui nous écoutent.
Merci à Pierre-François Poulin. Merci Laurent Brault.
Merci à vous deux.
À bientôt.
Merci à vous deux.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
J'ai fini de tout donner, que tout soit tout le temps compliqué, de céder, de m'impliquer, de toucher le fond. Plus rien ne tuera mon bonheur, pas même tes beaux talents d'acteur. C'est fini le temps où je croyais à tes illusions. J'ai fini de m'oublier, de croire que tu pouvais changer. J'ai fini de m'acharner, de tourner en rond. Plus rien ne freinera mes ardeurs, pas même ta rancœur ni tes pleurs. C'est fini le temps où c'est toi qui avais raison. Débarrasse tes affaires, prends ton cash puis fais de l'air. Mêle-toi de tes affaires, je veux plus jamais te revoir. Débarrasse tes affaires, prends ton cash puis fais de l'air. Mêle-toi de tes affaires, je veux plus jamais te revoir. Je veux plus jamais te revoir. Souvent tu m'as dit, t'es mieux de faire attention. Trop longtemps je me suis sentie comme un gardien de prison. Trop souvent j'ai souri sans bouger comme un pion. Trop longtemps je me suis menti, caché ma frustration. Trop souvent j'ai dit oui quand tu me demandais pardon. Trop souvent anéanti par preuve de compassion. Trop souvent j'ai rien dit, enfoui mon opinion. Trop longtemps je me suis menti, mais le c'est
On vient d'entendre Alicia Deschênes qui nous chantait « Plus jamais ». Restez avec nous pour la prochaine demi-heure de l'émission.
Écoutez « Regards croisés » avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Let me tell you about the people who doubt. People who doubted me. Wanna thank you guys for knocking me down. I'm happy we disagreed. Every no I heard before only made me want it more. I'm the one who got away for you now. 'Cause now you remember me. But you're never gonna forget about me. No, you're never gonna forget about me. You would only see what I couldn't be. Now you're never gonna forget about me. Let me tell you about the people who laughed. The people who laughed at me. I wanna thank you girls for picking me last. A drum that you couldn't beat. Had to make it on my own. I got good at being alone. You're playing up how much I mean to you now. You're like, yeah, she remembers me. But you're never gonna forget about me. No, you're never gonna forget about me. You would only see what I couldn't be. Now you're never gonna forget about me. No, you're never gonna forget about me. No, you're never gonna forget about me. You would only see what I couldn't be. Now you're never gonna forget about me. Oh,
close the door. Thanking you for motivation. I don't need you anymore. Never gonna forget about me. For all the times you turned me down, I found a way to overcome it. You told me you don't get my sound. Why don't you turn the music up right now? Listen, no, you're never gonna forget about me. No, you're never gonna forget about me. You would only see what I couldn't be. Now you're never gonna forget about me.
What?
No, you're never gonna forget about me.
Ouais, là on vient d'écouter Nicki Janowski, Forget. Comme annoncé en début d'émission, nous avons déjà notre invité au téléphone avec nous. Pandémie oblige, on ne pouvait pas le recevoir en studio. C'est la 10e édition du Festival Montréal Nouvelle Musique, MNN, en web diffusion gratuite. Et le thème cette année, c'est « Au-delà des frontières ». On a au téléphone avec nous le directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec. Il est là depuis 1988. Ça fait déjà un moment.
Ça fait déjà 33 ans.
Oui, M. Boudreau, j'arrive. Et il a été plus rapide.
J'ai battu bien des gens à ce compte-là, hein, parce que que ce soit les politiciens, les dictateurs, les tout ce qu'on voudra.
Oui.
Et j'ai fait... Ça fait maintenant 33 ans que je fais la direction artistique.
Bravo,
M. Boudreau.
Ça. Alors, vous l'avez entendu déjà sa voix, c'est Walter Boudreau, l'enfant terrible de la musique contemporaine au Québec.
Ah, hein? Il faut bien être quelque chose. Là.
C'est ça.
En ce qui me concerne, j'ai été mieux terrible que d'un ennui.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Comment allez-vous en tant que directeur artistique de cette 10e édition il y a quelques jours de l'événement?
Ben, écoutez, d'abord, très, très fébrile,
oui.
Aussi un peu inquiet, ce qui est normal,
oui.
Parce que la donne, elle est complètement changée,
oui.
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de public en salle,
oui.
Tous les concerts, les 11 quelques concerts de M&M auront lieu en direct,
oui.
Sur l'Internet, et en web diffusion, bien sûr, il n'y a pas de public en salle.
Il n'y a pas de public en salle, oui.
Mais non, il n'y a pas de public en salle. Alors là, il y a quelque chose là qui est inquiétant pour un artiste de la scène que je suis,
oui.
Parce que on vient de dire que j'ai passé 33 ans à la direction artistique de la SMCQ, mais j'ai fait bien d'autres choses avant.
Ça, bien avant, ça.
Fait plus de 50 ans que je donne des concerts, que je suis non seulement compositeur, chef d'orchestre, mais aussi instrumentiste et tout ça.
Alors, oui, là, oui, grand saxophoniste, oui.
À cause de la pandémie, il n'y a pas de public. Alors, on est un peu inquiet, dans le sens qu'il a fallu qu'on se recycle très rapidement, parce que nous, on est la Société de musique contemporaine du Québec.
Oui.
On n'est pas MGM ou Warner Brothers, là. Nous, on produit des concerts.
Oui. Oui.
Et là, maintenant, il faut produire des artefacts audiovisuels.
Oui.
Alors là, maintenant, il faut engager des gens avec des caméras. Et puis là, il faut penser, parce que quand vous venez au concert, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté nos concerts.
Oh, oui,
oui.
Moi, sûr.
Vous venez vous asseoir au concert, puis vous regardez bien ce que vous avez envie de regarder.
Oui.
Parce que les musiciens sont là et il y a cette... cette fébrilité, oserais-je dire, dans l'air, qui fait en sorte que ce qui va se dérouler devant vous est unique. Alors, ça, on l'offre quand même au public. Alors, le public va avoir le loisir et les musiciens aussi vont vivre, entre guillemets, le stress qu'on vit de donner un concert en direct.
En direct.
Et ça, c'est une drogue à laquelle peu de musiciens peuvent échapper. Oui. Ceux qui y ont échappé, c'est parce qu'ils sont allés travailler à Banque Royale ou quelque chose.
Tout à fait.
Ou ailleurs.
Il y a là une sensation unique. Maintenant, compte tenu des circonstances, puisque c'est un peu comme la peste, hein, tous étaient frappés, tous n'en mouraient pas, mais là, la COVID nous frappe de plein fouet de partout. Et rapidement, il a fallu qu'on trouve des solutions.
Oui.
Je disais qu'il veut bien m'entendre que la nécessité est la mère de l'invention. Et une des grandes qualités de la race humaine, c'est son adaptabilité.
Oui.
On s'adapte. Il y a des circonstances qui sont au-delà de notre contrôle. Donc, le festival, j'avais contemplé de l'annuler parce qu'on ne pouvait pas recevoir nos invités internationaux parce qu'ils ne peuvent pas venir ici.
Parce qu'ils ne peuvent pas voyager.
Ils peuvent venir, mais on reçoit, je donne l'exemple, je ne sais pas, moi, l'ensemble court-circuit de Paris, ils s'en viennent ici, on les met dans un motel à Dorval pendant 14
oui,
jours.
Oui, c'est ça aussi.
Vous venez donner un concert d'une heure, ce qui est ridicule.
Oui,
complètement.
Oui.
Alors, on est obligé de mettre de côté, et même nos invités canadiens, parce que on a un ensemble formidable qui est le VICO, le Vancouver
Intercultural. Le Vancouver Intercultural, oui.
Un ensemble absolument unique au monde. Et je pense qu'il y a des instruments qui viennent de Mars chez ces gens-là. Là. Et ce sont des virtuoses, ce sont des musiciens formidables, mais ils ne peuvent même pas voyager, même à l'intérieur du pays.
Même à l'intérieur du Canada.
Montréal, vous les envoyez en quarantaine.
En quarantaine.
Alors ça, c'était pour nous assez terrible. Mais j'ai pris la décision, j'ai dit oui, mais on a à Montréal ici une expertise et une expérience, parce que la SMCQ a dépassé même la cinquantaine.
Oui, la cinquantaine.
Alors, on fait du répertoire international. Donc, il y aura ce qu'on a de mieux au niveau des ensembles, des groupes, des solistes, des musiciens qui vont participer à M&M.
Oui.
Ce qu'on peut offrir de mieux ici, à Montréal, et dans un répertoire où est-ce que j'ai travaillé beaucoup pour faire en sorte qu'il y ait une participation, entre guillemets, internationale, c'est-à-dire de compositeurs qui n'ont pas leur passeport canadien.
oui, je comprends. Et puis bon, ça veut dire que ça vous a obligé à puiser beaucoup plus dans le bassin régional d'artistes.
Et peut-être tant mieux.
Vous savez, le bassin régional d'artistes, il est fabuleux.
Oui.
Il est vraiment fabuleux. Et je le dis humblement parce que, puisque ça fait 33 ans que je suis à la tête de la FMCQ, j'ai vu comment ça s'est développé. Tu sais, dans les années 60, il n'y avait presque rien quand Serge Garand et les Serge Garand, les Marie-Vonne Kennergy, les Pecno Couture, les Gilles Tremblay, ces gens-là ont mis sur pied la FMCQ. L'envol qui a suivi cette naissance est exponentiel.
Oui, oui.
Et maintenant, il y a un riche terreau fertile de compositeurs ici. Vous savez, il y a
On va continuer.
Je pense que...
Monsieur Bourdeau?
Oui?
On va continuer avec ça, mais on fait une petite pause musicale contemporaine, bien sûr.
Oui.
Pour nos oreilles et les
justement,
oreilles.
Justement, écoutez ce que vous nous dites.
Par musique. C'était la série hommage à Anas Lozorkovic, SMCQ, oui, ensemble.
Oui.
Vous pouvez me parler un peu de cette pièce que vous connaissez?
Pardon? Non, parce que j'étais sur l'autre ligne.
Ah, bon, d'accord. Vous n'avez pas écouté la pièce.
J'avais une urgence de l'autre côté.
Ah, bon, d'accord. C'est pas grave. Là, bon, oui, je vous laisse partir parce qu'on va parler un peu de la programmation.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait jouer?
On a joué SMCQ, série hommage à Anna.
À Anna Sokolovic?
Oui.
Ah, bien sûr, oui.
C'est ce qu'on a joué.
Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Quelle pièce vous avez fait jouer? Je pense que c'est une œuvre instrumentale, c'est pas un concerto.
C'est instrumental.
Je ne croirais pas, c'est une œuvre instrumentale. Désolé parce que j'avais une urgence sur l'autre ligne. Oui, Anna Sokolovic qui va figurer au programme de M&M le 27 février lors du grand concert de la SMCQ à la Maison Symphonique.
Oui.
Dans laquelle Anna Sokolovic, c'était sa première commande.
Ah oui.
C'était sa première commande officielle ici.
Mm-hmm.
Et c'est moi qui lui avais commandé cette œuvre-là. Et elle a décidé de faire une œuvre qui s'appelle Jeu de portrait, où est-ce qu'elle rend hommage à quatre compositeurs québécois.
Oui.
Et c'est vraiment bien parce qu'en plus, le 27, il y aura aussi deux grandes œuvres de Gilles Tremblay, qui a été associé à la SMCQ pendant au moins 25 ans.
Oui.
Et Serge Garand, pendant 20 ans, puisque Serge est décédé lors du 20e anniversaire de la SMCQ. Et donc, ce sont vraiment des grandes œuvres, des classiques d'ici. Et puis aussi Volumina de Ligeti. Alors c'est là qu'entre en jeu, entre guillemets, l'international, qui est une œuvre hallucinante de Ligeti, mais qui exige, je vous passe les détails, là, mais si vous avez une perruque, collez-la bien. elle va partir au vent.
Ah bon?
D'accord.
L'édition de Volumina, c'est une œuvre absolument unique en son genre.
Oui.
Et de Gheorghi Ligeti.
Oui. On va parler du premier spectacle le 18 à 19h30, la soirée d'ouverture qui plonge dans les nouvelles couleurs de la musique contemporaine avec le Vancouver Intercultural Orchestra.
Oh, oui.
C'est nommé les Nations Unies de la musique.
Pas loin. c'est un bel essai et c'est important parce que l'ouverture du festival est à l'image de l'ouverture de la SMCQ et de l'ouverture que moi, je prône depuis que j'ai ouvert les yeux sur l'abolition des frontières. Les frontières ne font que diviser les races.
Vous avez aboli les frontières.
Alors, parce que les frontières, ça crée des murs entre les gens, entre les races, entre les religions. Et on est tous des êtres humains. On est tous pareils. Quelle que soit notre couleur, on est tous pareils.
Quelle belle philosophie.
Et j'ai une anecdote que j'aime raconter qui m'a ouvert les yeux sur l'artificialité des frontières. J'ai été élevé chez mes grands-parents et j'ai toujours eu un dada qui est d'étudier les cartes géographiques. C'est mon métier de chef d'orchestre, hein, d'avoir une vue de la vole d'oiseau, de l'endroit où est-ce que je suis. Et tout jeune homme, tout petit garçon, j'étudiais les cartes géographiques, non seulement des pays et des villes. Et la première fois qu'on était traversé, on avait de la parenté dans le Vermont, qu'on avait traversé la frontière entre le Québec et le Vermont, à Swanton, j'ai demandé où est-ce qu'était la ligne pointillée. Il va y avoir une ligne pointillée sur la route.
Ah, oui.
Parce que c'est comme ça que c'était dans mes cartes géographiques. Et là, mon grand-père a dû sortir tout ce qu'il y avait comme raisonnement pour me faire comprendre que, ben non, parce que c'est artificiel. Alors, j'ai toujours prôné depuis mon entrée.
Vous n'avez pas été déçu suite à la réponse de votre grand-père?
Pardon?
Vous n'avez pas été déçu suite à la réponse de votre grand-père?
Ben, ça n'a pas l'air parce que je suis là et puis je persiste.
Vous continuez avec les pointillés?
à faire oublier les pointillés.
Oui.
Et c'est une question d'ouverture. Et c'est une question. Comment dire donc? Il y a la fermeture puis il y a l'ouverture.
Il y a l'ouverture.
Et l'ouverture, c'est d'être ouvert aux autres, c'est de s'écouter les uns les autres. Et si les gens faisaient ça, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de. Tu sais, c'est pas de l'utopie, un peu, peut-être, mais au moins en musique, on peut se permettre cette utopie-là.
Oh oui.
qui ne blesse, qui ne dérange, qui ne frustre personne.
Oui.
Alors, tout le festival, parce que le premier concert est absolument indicatif, c'est un peu comme un prélude au restant du festival,
oui.
De la diversité des styles, des musiques qui sont présentées. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute la musique est basée sur un phénomène acoustique, qui est la résonance des corps et qui donne le spectre harmonique. Alors, tous les êtres humains sur la Terre partagent et sont confrontés à ce même phénomène.
À ce même phénomène-là. Et puis d'ailleurs, comme dirait aussi certains spécialistes de la musique, ils disent que la musique, c'est un langage universel.
Oui. Alors donc, partout sur la Terre, on a développé... je suis désolé, hein, parce que c'est encore l'urgence qui est sur l'autre ligne, là. Oui. Je vais y répondre, parce que si vous faites jouer encore quelque chose, je vais retourner sur cette ligne-là.
Okay.
Mais bref, alors donc, mais chacun dans son coin, vous savez, si vous vivez dans le désert en Algérie, si vous vivez dans l'Himalaya, si vous vivez dans la jungle, dans le Mato Grosso, ou si vous vivez, je sais pas moi, le long des Grands Lacs, ou autour du bassin de la Méditerranée, le même phénomène va s'appliquer de façon différente.
Mmh.
On voit ça avec l'art culinaire. Tous les êtres humains, on fait tous la même chose, on prépare à manger.
Okay.
On mange à peu près tous les mêmes bêtes, si vous me passez l'expression.
Oui, c'est vrai.
Les mêmes céréales. On mange à peu près toutes de base, parce qu'on mange des céréales, on mange de la viande, on mange du poisson. Mmh. Mais ensuite de ça, on apprête ces choses-là de façon différente.
De façon différente.
C'est pour ça que c'est intéressant d'aller manger dans un... Je sais pas moi, d'aller manger dans un restaurant haïtien, d'aller dans un restaurant grec, ou d'aller chez notre bon italien, ou d'aller dans un restaurant vietnamien. À toute fin pratique, tous les produits qui sont là se ressemblent beaucoup.
Se ressemblent beaucoup.
Ils ont chacun leur parfum, ils ont chacun leur texture, ils ont chacun leur personnalité. Ben, la musique, pour moi, c'est comme ça.
Voilà, le piano muet du 28 février. Ce conte musical au carrefour de la création québécoise qui va rassembler des artistes renommés autour de l'œuvre émouvante de Gilles Vigneault et Denis Goujon, à savourer sans limite d'âge. Parlez-nous un peu de ce spectacle spécial, le piano muet.
Oui, alors le piano muet est un des grands classiques de la SNCQ, qui avait été commandé, je crois, c'est en 2003, à Denis Goujon et Gilles Vigneault. Gilles Vigneault a écrit le scénario mis en musique par Denis Goujon. C'est une production absolument magnifique, c'est très poétique. Hein? C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans une... Bon, je n'irai pas dans le détail, là, mais l'histoire d'un petit garçon qui va retrouver pas mon grand-père, mais son grand-père à lui, parce que le piano était souplé et son grand-père était parti de la maison. Et c'est très touchant, c'est très poétique. On a eu le grand coup de cœur de l'Académie Charles Lecot et c'est servi à merveille parce qu'il y en avait une première version avec un ensemble instrumental, assez une douzaine ou une quinzaine de musiciens, et ça coûtait très cher.
Oui.
Parce qu'on allait jouer ça dans les écoles. Les écoles n'avaient pas le budget pour se faire.
Pour recevoir ça?
On s'est tourné vers mon ami, le comédien Marc Bellan, qui fait de la mise en scène, parce qu'on s'était rencontrés lors d'une production au Théâtre du Nouveau Monde, une production L'Asile de la pureté de Claude Gauvreau. Et Marc Bellan a accepté d'en faire une nouvelle mise en scène. Alors, ils sont à toute fin pratique deux. Il y a Francis Perron au piano et Jacques Piperny qui joue le rôle du petit garçon et de sa petite sœur, Emma. Et dans une mise en scène très très particulière avec la scène qui tourne. Alors donc, il a fait tourner avec une bicyclette. En tout cas, c'est une histoire. Et c'est pour nous, c'est important. C'est un grand classique parce que...
C'est un grand classique, oui, c'est...
C'est pour toute la famille, c'est pour tout le monde, c'est pour les grands, les jeunes, les vieux.
Les absents auront tort, hein, ça voilà. Il faut le dire.
Il voilà, faut aller voir sur le site toute la programmation qu'il y a.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Ouais, c'est le festival mnm.ca.
Montréal Nouvelle Musique.
Oui, voilà. Montréal Nouvelle Musique. Là, mais là, comment dirais-je, toute la programmation est là-bas pour les gens qui veulent. Ça, c'est celui-là, ce spectacle-là, moi, je ne vais pas le rater, le piano muet.
Parce que, voilà, c'est bon. En après-midi, donc... Vous allez pouvoir revenir à la maison pour souper.
Oh, merci beaucoup à vous. On est à la fin de l'entrevue, Monsieur Bourdeau.
La maison, bien sûr, c'est une blague que je fais.
J'espère qu'on pourra retourner au restaurant, moi.
Ah, ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup.
Aussi. Merci
allez,
beaucoup.
Bon festival, bonne 10e édition.
Oui.
Et puis, bon, ben, je vous dis bon vent.
Ben oui, ben, moi aussi. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir, Monsieur Bourdeau. C'est le quartet Bolinari qui interprète une pièce de Johnson, de Dead Man. C'est de la pure musique contemporaine, ça. Ouais, très brève d'ailleurs. Arlette.
Oui, un petit morceau, mais il faut, faut aller écouter. Bah, écoute, moi, toute cette émission me rend assez admirative de tout ce qu'on reçoit parce que finalement... On a beau se plaindre beaucoup de ce qui se passe et de l'enfermement qui nous est donné, mais en même temps, ça ouvre sur d'autres possibilités qui n'auraient pas été ouvertes autrement ou peut-être beaucoup plus tard. En tout cas, ça fait preuve chez chacun d'une créativité surprenante, admirable. Ça me donne envie de sourire, non pas qu'on puisse plus sortir, mais de voir à quel point tout le monde, tous les artistes savent se remettre en question sur d'autres choses.
Et de toutes les façons, en commençant par les gens qui ne peuvent plus aller dans les bureaux. Ils peuvent pas, ils font du télétravail.
Oui, voilà, là je parlais du milieu artistique parce qu'on vient de recevoir des gens, mais c'est vrai que c'est pour tout le monde pareil.
Le milieu artistique en profite bien aussi quelque part. Hein, parce que même si les gens font des événements en web diffusion, la plupart du temps, le nombre de personnes qui se connectent
sont supérieurs, mais écoute, on le souhaite, on leur souhaite en tout cas, puis on leur souhaite que les finances soient là aussi.
J'aimerais bien qu'on se retrouve en salle.
Moi aussi.
Voilà.
Merci à toutes et tous pour nous avoir suivis. Merci Maurice Bolduc pour les musiques.
Merci Monsieur Bourdeau.
Merci Monsieur Bourdeau. Merci
Walter Bourdeau.
Merci Laurent Brault. Merci Pierre-François Poulain et puis Fulgence.
On se voit demain. Oui, on dit merci à nos auditeurs.
Peut-être. Moi, je l'ai dit.
Tu ne me feras pas ce coup, là.
Allez, Dieu bonne le veut. Soirée. Allez.
Ciao.
Au revoir.